Je suis avec Angie David dans les bureaux Léo Cher. Bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir. Nous parlons de Sylvia Bataille, votre livre paru à la rentrée. Lorsque vous vous lancez dans l'aventure de cette biographie, Angie David, c'est-à-dire avant même que vous vous atteliez à l'écriture elle-même, vers quoi vouliez-vous tendre? Quel était votre point d'horizon?
Pourquoi j'ai fait ce livre? Pourquoi j'ai écrit sur Sylvia Bataille? Bien, je crois pour deux raisons. La première, c'est que j'avais fait un premier livre qui portait sur Dominique Horry, qui était vraiment une biographie classique, et qui avait eu un très très bon accueil à l'époque, aussi bien dans les médias qu'en librairie. Et donc ça m'avait... j'avais été très 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 heureuse de l'écriture et de la sortie de ce livre. Ensuite, j'ai fait deux romans qui se sont beaucoup moins bien passés, qui ont été moins vus, on en a moins parlé, que je regrette pas d'avoir fait parce que j'avais besoin de passer aussi au roman. Moi, je comptais pas me cantonner à la biographie. Mais donc, je me suis dit quand même que sur un quatrième livre, ça pourrait être intéressant de relier un petit peu les deux, donc de garder le bénéfice quand même d'une expérience d'écriture romanesque, mais de l'appliquer à un personnage qui avait existé et qui appartenait à une certaine histoire littéraire ou intellectuelle, en tout cas, de la première moitié du XXe siècle, parce qu'il se trouve que, comme dans Dominique Horry, c'est une période que je connais et que j'aime énormément, qui me passionne. Et donc je me suis dit, on va essayer de faire un livre qui réunisse un petit peu ces deux aspects, et peut-être que ça va me réconcilier pleinement avec l'écriture et avec le milieu littéraire aussi, la réception que peuvent avoir les ouvrages quand on les sort. La deuxième raison, elle est plus intime, je l'explique au début du livre, c'est que je suis très amie avec une femme qui s'appelle Sandra Bache, qui se trouve être la petite-fille de Sylvia Bataille, la fille de sa fille Laurence, qu'elle a eue avec Georges Bataille, l'écrivain. Et donc, il y a 2 ans, l'été d'il y a 2 ans, j'étais venue avec ma petite-fille toute bébé passer quelques jours dans la maison de l'île de Ré, qui appartenait à Sylvia et que sa petite-fille Sandra a reprise. Parce que moi, ma mère vit à La Rochelle et ma fille est née à La Rochelle, et du coup, j'étais en face de l'île de Ré. Et Sandra m'a dit, mais viens passer quelques jours dans ma maison. J'avais encore jamais vu la maison de Sylvia, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais encore jamais vue. Et donc, je suis arrivée avec ma petite fille qui s'appelle Diane, qui avait donc 3 semaines. C'était sa première sortie importante. Et on a passé quelques jours dans cette maison. Et c'est vrai que ça a été un séjour assez merveilleux. J'aime énormément Sandra, j'aime beaucoup ses fils. C'est toute une bande de jeunes qui viennent tous les étés passer des vacances avec ses fils et tout ça. Donc, on était très, très bien dans cette maison qui est très belle, assez sobre, très élégante, très simple. Et du coup, le fantôme de Sylvia, très clairement, était présent, et je me suis dit, ah, quand même, j'ai commencé à réfléchir à ça à ce moment-là, je me suis dit, quand même, cette femme assez extraordinaire, qui a traversé cette période incroyable des années 20, des années 30, et de la guerre, dans ce milieu artistique, intellectuel, ce serait bien, quand même, de faire un livre sur elle, mais j'osais pas trop, parce que, étant amie avec Sandra, j'avais peur, quoi, qu'elle ait l'impression que je m'appropriais son histoire familiale. Et puis c'est mon éditeur Léo Cher, enfin, qui est mon patron et mon éditeur, parce que je travaille aussi à la maison d'édition, qui a fait son rôle d'éditeur, qui m'a dit mais tu as tort de te censurer, c'est une très très bonne idée, il faut faire ce livre, je le sens, c'est bien. Et donc on a décidé d'en parler tout de suite à Sandra, on l'a invité à déjeuner, on a déjeuné tous les trois avec Léo Cher. Et on en a parlé à Sandra, et Sandra, comme c'est une femme extrêmement intelligente et voilà, qui a une grande finesse, au lieu de dire « oh ben non, quand même, moi ça me dit trop rien qu'on fasse un livre sur ma grand-mère et tout ça », tout de suite, elle était emballée, et donc je me suis dit « bon, ben faut y aller ».
Cette amitié avec la petite-fille de Sylvia Bataille, elle aurait pu vous gêner? J'ai l'impression qu'elle vous a porté, au contraire.
Oui, c'est-à-dire que même, je dirais, que l'écriture du livre a renforcé notre lien, et j'ai trouvé que ça, c'était assez merveilleux, en fait, de faire un livre où il y avait un enjeu aussi humain, affectif. Et du coup, avec Sandra, on se voyait, mais moins souvent. Du coup, on s'est vus plus souvent. On a comme adopté une espèce de rendez-vous régulier où on déjeunait ensemble pour qu'elle puisse me raconter des choses sur sa grand-mère, me parler des gens de la famille, que moi, comme je rencontrais différentes personnes, puisque je me suis basée essentiellement sur des entretiens, vu que Sylvia a, paraît-il, détruit en grande partie sa correspondance, j'ai retrouvé quelques lettres, mais assez peu. Peut-être qu'il existe des choses, mais ou on ne les a pas retrouvées, ou elles sont cachées dans la famille, on n'a pas voulu les montrer, quelle que soit la vraie raison. En tout cas, la version officielle, c'est qu'elle a détruit la majeure partie de sa correspondance. Donc moi, je me suis basée plus, à l'inverse de Dominique Horry, qui était basée que sur des correspondances. Alors là, je me suis basée principalement sur des entretiens avec des membres de la famille. Du coup, quand je voyais quelqu'un de la famille, que Sandra ne voit pas forcément, parce que dans une famille, c'est toujours pareil, tout le monde ne se voit pas tout le temps, donc il y en a qu'elle n'a pas vu depuis des années, ben, je lui donnais aussi des nouvelles. Enfin voilà, il y avait une espèce de lien comme ça qui s'est aussi renforcé grâce à ce livre. Donc ça, je trouve que c'est assez unique et assez merveilleux.
Là, c'est important ce dont vous mentionnez, Angie David, basé sur des entretiens, parce qu'il se pose effectivement la question du matériel, du document auquel vous avez eu à faire face pour cette biographie. Donc la bibliographie, effectivement, se pose cette question. Votre livre ne contient pas de bibliographie, ne contient pas d'index. Est-ce parce que c'est basé uniquement sur des entretiens ?
Non, c'est basé aussi beaucoup sur des livres. Il pourrait y en avoir une bibliographie parce qu'elle est conséquente. Mais d'abord, donc les entretiens et des livres. Des livres, c'est-à-dire principalement des biographies, des correspondances quand elles sont publiées, des journaux, des mémoires quand ils sont publiés, des gens qui sont autour du personnage de Sylvia Bataille, puisque donc elle a embrassé tout ce... tout ce milieu donc artistique intellectuel des années 30 qu'on va mettre sous la bannière des surréalistes pour faire simple, même si à l'intérieur du surréalisme il y a énormément de dissidents, d'hérésies, bon donc c'est un peu simplificateur, mais enfin en gros on va dire voilà sous la bannière des surréalistes. Donc tous ces personnages, Georges Bataille évidemment son premier mari, ensuite Jacques Lacan, mais aussi sa sœur Rose qui était mariée avec le peintre André Masson, son autre sœur Simone mariée avec Jean-Pierre qui dirigeait la revue Critique, son autre sœur Bianca, sœur aînée qui était mariée avec Théodore Frankel, médecin, ami de Breton, fondateur du surréalisme avec Breton, André Breton, Jacques Prévert, le grand ami de Sylvia, Jean Renoir pour lequel elle a tourné, bon... Tous ces gens, je me suis basée sur leur biographie, leur correspondance, leurs journaux, quand il y en avait, personnages comme Michel Léris, Georges Limbourg, enfin voilà, tous ces personnages qui traversent le livre et la vie de cette femme. Mais on ne voulait pas, avec Léo Cher, mettre de bibliographie, parce que justement, comme je vous disais au tout début, l'idée c'était aussi de mixer un peu avec le genre romanesque, de ne pas être dans la biographie stricto sensu. Donc j'ai volontairement supprimé tout ce qui pouvait ramener le livre vers la biographie. L'index, le cahier photo, la bibliographie, ce sont des éléments, les notes de bas de page, ce sont des éléments qui appartiennent au genre de l'essai biographique. Moi, si je voulais faire un peu roman, même si beaucoup de journalistes n'ont pas vraiment envie de l'accepter comme un roman et le prennent quand même comme une biographie, moi, en tout cas, j'ai quand même essayé de faire œuvre romanesque au sens où c'est un récit, j'ai voulu raconter la vie de cette femme comme si elle était un personnage de roman, je me la suis beaucoup appropriée, j'ai beaucoup interprété. Tout n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé, mais j'ai donné un éclairage qui est très personnel. En fait, peut-être même que Sylvia Bataille me ressemble plus qu'elle ne se ressemble. C'est possible, hein, c'est possible que j'ai mis des choses. Il y a des gens de la famille qui m'ont dit ça, qu'il y a des trucs qu'elle n'aurait pas fait, elle n'aurait pas dit ça. Mais moi, je les ai mis comme ça, puisque c'est ce que moi, peut-être, j'aurais pensé ou ce que moi, j'aurais dit. Et du coup, je me suis vraiment approprié cette femme, hein, complètement. Donc c'était ça, pour moi, l'enjeu de ce livre, c'était quand même de réussir à lui donner une dimension romanesque. Alors, je ne sais pas si j'y suis complètement parvenue. Enfin, en tout cas, c'était l'intention.
Un roman biographique. C'est ce que vous avez, le terme que vous utilisez pour le dénommer. Un roman biographique dans lequel vous êtes impliqué, vous également, à l'intérieur du récit. Vous évoquez votre expérience de jeune mère, comme pour donner un angle de lecture différent à celle de Sylvia Bataille, jeune mère également. Vous vous impliquez donc dans ce récit. Donc ce genre-là, roman biographique, quelle définition en donneriez-vous ?
Ben c'est vrai que ça n'existe pas. Donc du coup, je vous dis, hein, y a pas mal de médias qui n'acceptent pas vraiment la dénomination, qui ne marchent pas. Normalement, c'est vraiment incompatible. Hein. On fait du roman, on est dans la fiction, même si c'est l'autofiction, même si c'est l'autobiographie, si tout ce qu'on raconte est vrai, le pacte est très clair, on fait du roman, donc il y a un jeu ou un il, un narrateur qui vous parle, et on sait dans quel registre on est. Quand on fait de la bio, on parle de quelqu'un qui a existé, donc on est censé respecter certaines règles. Certains leur donnent même une espèce de dimension morale presque, hein. C'est presque immoral hein, de ne pas respecter les codes du genre biographique. C'est vrai que moi ça m'intéressait pas vraiment de refaire une bio, d'abord je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matériaux. Sur Dominique Horry, comme j'avais retrouvé toutes ses correspondances privées, il y avait une matière telle que l'aspect documentaire a pris le dessus en réalité, et du coup moi j'ai eu envie de donner aux gens tout ce que moi j'avais réussi à trouver, qui était assez exceptionnel, donc tout ce qui est dans des cartons chez moi en fait et dans le livre. Donc il y avait vraiment la volonté quand même de transmettre un témoignage, des documents, de l'archive. Là chez Sylvia, comme il n'y en avait pas, c'était limite quand même au projet au départ. Donc je me suis dit de toute façon, tu pourras pas vraiment faire un essai. Alors évidemment, j'aurais pu passer 20 ans de ma vie à essayer de rassembler. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai eu un mail il n'y a pas longtemps d'un monsieur qui a racheté la maison où Sylvia s'est réfugiée avec Bataille, les enfants et les maçons au tout début de la guerre à Ferluc, en Auvergne, près du village d'où Georges Bataille était originaire. Et il a retrouvé dans cette maison des correspondances, des documents, des papiers qui appartenaient à Sylvia, que Sylvia a certainement abandonné, c'était au tout début de la guerre, au moment de l'exode, et donc certainement qu'ils ont dû partir un peu précipitamment, et elle a laissé des papiers. Donc évidemment, au terme d'une vie, on doit pouvoir rassembler, bon gré mal gré, des morceaux épars, et réussir à reconstituer un puzzle. Mais moi, évidemment, j'avais pas envie de passer non plus 20 ans de ma vie sur ce livre. C'est-à-dire que moi, il faut que j'ai un métier, j'ai une vie, il faut que je fasse d'autres livres après. Bon, ça valait pas que ça me prenne trop de temps non plus. Donc assez vite, je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'archives? Eh bien, on fait du roman. Hein, on complète par la sensibilité, l'imaginaire, la réflexion, par des choses plus personnelles, ce qui manque. Donc du coup, c'était presque obligé, en fait, sur ce personnage, de faire un roman biographique. Et comme je vous disais au tout début, ça m'intéressait de mélanger ces deux registres et de réussir, plus ou moins, à créer quand même une forme assez inédite qui me correspond, c'est-à-dire qui, pour moi, fait entièrement sens. Presque je pourrais écrire que des livres comme ça. Alors, je ne sais pas ce que je ferais, parce qu'au bout d'un moment, ça ferait évidemment système qu'on reproduit. Mais c'est vraiment ce pourquoi je pense que vraiment, je pourrais tendre qu'à ça, quoi, à prendre des vrais gens et à raconter leur vie, mais à ma manière, en me l'appropriant entièrement. Quoi. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était super de faire cet exercice. Et donc du coup, avec Léo Char, on s'est dit, on va mettre dans la quatrième roman biographique, on va vraiment enfoncer le clou sur cet aspect-là du livre. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu plusieurs articles qui m'ont reproché l'absence de bio, de biblio, d'index, de finir quand elle a 48 ans. Il y en a qui ont dit, quand même, c'est aberrant de faire la vie d'une femme pour faire l'impasse sur 40 ans de sa vie. Bon, des choses comme ça, les incursions personnelles, le fait que je parle de moi, il y en a vraiment qui ont trouvé que c'était mais totalement... vraiment presque choquant, hein. C'était totalement déplacé, vraiment, quelle idée de faire ça, on parle de Sylvia Bataille, qu'est-ce que j'ai besoin de ramener ma fraise là-dedans, bon, encore je ne l'ai pas fait beaucoup, Léo Char aurait voulu que je fasse ça tout du long, et encore je me suis un petit peu limitée, parce que je me suis dit, faut pas, je savais qu'il ne fallait pas aller trop loin là-dedans, et je craignais les critiques, mais du coup, on voit très bien quand on essaye un petit peu de bouleverser les règles du genre, il y a quand même des gens qui sont là pour vous rappeler à l'ordre, hein, les redresseurs de tort, et disent « Oula, 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 ça ne se fait pas. Hein. » Mais moi, justement, je trouvais que c'était bien de se permettre de le faire.
Vous permettez aussi de brosser un beau tableau du milieu intellectuel en France dans les années 20 et dans les années 30. Un tableau assez personnel, plutôt sur les mœurs. Vous vous y attardez longtemps, à cette période-là, des années 20, des années 30. Et dès que vous manquez sans doute de matériaux pour parler de Sylvia Bataille, vous parlez de tous ses amis. Qu'est-ce qui vous impressionne dans la vie intellectuelle de cette époque au point d'en faire quasiment une bonne moitié de livres? Il y a des pages où, pendant 10 pages, par exemple, Sylvia Bataille est complètement absente. Et vous parlez un peu de l'ambiance dans le Paris de ces années-là.
Bien, Sylvia Bataille, elle n'a pas d'œuvre. Alors, elle est comédienne, il y a des films dans lesquels elle a joué, dont des chefs-d'œuvre de Renoir, mais quand même, un personnage auquel on écrit qui n'a pas d'œuvre, il faut bien trouver quand même l'intérêt de sa vie. Alors, son intérêt, c'est pas seulement qu'elle était une femme extraordinaire, qu'elle était belle, qu'elle était intelligente, qu'elle était drôle, qu'elle était talentueuse, c'est aussi et surtout qu'elle était au cœur de ce milieu. Donc, de toute façon, parler de Sylvia Bataille, pour moi, c'était en fait parler de ce milieu et trouver une entrée en matière à la fois transversale et sensible. Le fait que ce soit le destin d'une femme qui me touche, évidemment, ça a donné une dimension supplémentaire que s'il avait fallu faire juste un tableau de l'époque avec des personnages qui s'ajoutent, des noms qui s'ajoutent à des dates, évidemment, ça n'avait pas d'intérêt sur le plan littéraire. Donc je me suis dit, ça, c'est vraiment un bon moyen de raconter tout ça. Cette époque, je crois qu'elle est passionnante parce que c'est un petit peu l'époque, c'est l'âge d'or de Paris, c'est une époque où Paris est le centre et la capitale culturelle du monde, hein, vraiment, on peut lancer le slogan comme ça, comme un truc publicitaire. C'est là que ça se passe, les surréalistes, les dadas, puis les surréalistes entre 1919 et 1924, on va dire, mettent en place ce qu'on a appelé les avant-gardes littéraires, artistiques, intellectuelles, politiques. Ce sont des groupes révolutionnaires qui entendent quand même changer le monde, changer l'art, changer les mœurs, changer leur vie, changer le destin des hommes et des femmes. Et donc, on crée un mouvement, c'était un peu les premiers vrais mouvements, parce qu'avant c'était plutôt des écoles, on a plutôt des écoles, là c'est vraiment un mouvement qui mélange donc aussi bien des considérations artistiques que morales que politiques. Et on va ensemble créer une sorte de collectif qui attire le monde entier, puisqu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ça se passe à Paris, et que donc Man Ray, qui est américain, vient à Paris, Max Ernst, qui est allemand, vient à Paris, Buñuel et Dali, qui sont espagnols, viennent à Paris. On voit très bien que le monde entier est tourné vers Paris, enfin le monde entier qui s'intéresse évidemment à notre sujet, est tourné vers Paris, il ne rêve que d'une chose, c'est de venir là pour participer à cette grande aventure. Nous, on travaille dans, moi je travaille dans l'édition, je travaille donc dans ce milieu depuis plus de 10 ans maintenant, et je vois très bien quand même qu'aujourd'hui ça a changé. Alors évidemment, il servira à rien de dire c'était mieux avant, moi je suis très contente de vivre à mon époque, mais quand même, il faut bien le dire, c'est fini tout ça c'est fini, hein, il n'en reste que les vestiges. Et donc on est quand même tous un peu les héritiers de cette histoire-là, parce que quand même on s'est tous intéressés à notre métier, aussi parce qu'on vient de cette histoire française qui fait que dans la culture française du XXe siècle, il y a eu cette révolution des mœurs, cette révolution des mentalités, cette révolution des formes artistiques, qui fait que on a consolidé ce qu'on avait déjà formé les siècles précédents, y compris au XIXe siècle, mais vraiment sous une forme très contemporaine, très actuelle, qui permettait aux jeunes gens de s'identifier là-dedans, parce que ça embrasait aussi les aspirations des jeunes gens, quoi. Hein, voilà, comment est-ce qu'on change les rapports entre les hommes et les femmes, par exemple? Comment est-ce que les femmes deviennent aussi des artistes et pas seulement des muses? Enfin voilà, c'est vraiment des questions qui sont très très importantes, essentielles. Et donc, on est vraiment les héritiers de ça, mais en même temps, il n'en reste pratiquement rien, parce que quand on va aujourd'hui au De Mago ou au Flore, franchement, c'est un peu à pleurer quand même, hein, je veux dire, c'est un peu... Les écrivains, aujourd'hui, ils restent des grands écrivains, mais il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus cette espèce d'énergie extraordinaire, cette fougue de la jeunesse, tout ça, c'est fini, chacun fait sa petite carrière en solo, essayant bon gré mal gré de s'en sortir, de vendre quelques livres, d'avoir quelques papiers, c'est quand même très 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 dur. Et donc, il n'y a plus du tout de solidarité et tout ça, et je trouvais que c'était quand même intéressant de rappeler que notre milieu, il a vécu comme ça, et que ça n'était pas qu'un milieu de petits bourgeois qui essayent de faire carrière. C'était pas ça. Et moi, il y avait une dimension qui me plaisait beaucoup dans ce sujet, c'est l'amitié, parce que moi-même, j'ai une bande d'amis qui est la même. Moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, et en Nouvelle-Calédonie, on était une bande de copains au collège et au lycée. On est partis ensemble faire nos études après le bac, et on est restés très amis. Et on l'est toujours, on se voit 2-3 fois par semaine. Enfin, il n'y a qu'une partie maintenant qui vit encore à Paris, une partie qui est rentrée en Nouvelle-Calédonie, une partie qui est ailleurs, mais celle qui est encore à Paris, que je peux voir le plus souvent. On se voit très très souvent. Et moi, je fonctionne vraiment avec l'amitié. Et donc, je trouvais que de raconter comment ces gens, à la fois par nécessité et par hasard, s'aimaient d'amour, d'amitié, travaillaient ensemble, créaient ensemble, s'entraidaient, c'était assez merveilleux, parce que quand même ça a disparu.
Alors à cette époque, à Paris, il y avait des rivalités, notamment une rivalité que vous décrivez très bien entre la rue Fontaine et la rue Blomet. Vous écrivez entre la rue Fontaine et la rue Blomet, il y a autant de complicité que de rivalité. Une cartographie singulière de Paris se dessine. Un réseau de relations de plus en plus complexes se concentre sur quelques lieux qui forment autant de repères pour des hommes et des femmes qui veulent tout chambouler. Vous avez écrit de nombreuses pages sur cette rivalité.
Ah oui, alors c'est sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, dans l'amitié, il y a aussi des disputes, des querelles, des passions qui se déchaînent. Donc, c'est vrai que le mouvement surréaliste avait cette particularité de fonctionner sur la rupture. Donc, de toute façon, parce que déjà, c'était une rupture avec Dada, bon, une rupture avec évidemment tout l'establishment, mais y compris avec le mouvement qui en a été à l'origine, qui est Dada. Et André Breton était une figure quand même très très dure, très autoritaire, très autocrate, qui considérait qu'il était le chef de ce mouvement et que c'était lui qui donnait des ordres, qui donnait les directives, qui donnait la marche à suivre et qu'on lui devait obéissance. Et il se trouve qu'en plus, il était, alors lui, pour le coup, sur le plan des mœurs, très 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 vraiment puritain, très puritain.
Opposé au libertinage.
Voilà. Totalement opposé au libertinage, à l'homosexualité, vraiment sur la sexualité très 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 coincée.
Vous écrivez même qu'il considère par exemple que l'homosexualité est contre nature et incompatible avec une œuvre poétique.
Oui, oui, oui. Ah ouais, c'était vraiment des conflits, des querelles pas possibles entre eux, parce que d'un seul coup, il allait dire, oui, il allait dire, non, non, cette œuvre est absolument illisible, regardez d'ailleurs comment vit son auteur, donc son œuvre. Alors d'un seul coup, André Masson, par exemple, qui supportait pas ça, disait « Mais alors, c'est complètement absurde, puisque on aime Rimbaud. Alors Rimbaud et Verlaine, qu'est-ce qu'on en fait ?»« Oh, mais on n'était pas dans leur lit pour savoir ce qu'ils faisaient. Ben, » Vous voyez, à chaque fois, ils boutaient en touche, quoi, pour essayer de s'en sortir de ça, en disant « Non, non, enfin bon, eux, c'est un peu différent. » Pareil avec Sade, voilà, et à la fois il se revendiquait de Sade et en même temps il condamnait tous ceux qui avaient des pratiques libertines, ce qui rendait fou Georges Bataille, qui disait mais comment on peut se revendiquer de Sade si par ailleurs on condamne le libertinage, c'est aberrant. Donc il y avait à l'intérieur du mouvement des dissensions permanentes, des conflits, des ruptures, et il y a eu bientôt des excommunications, puisque évidemment, quand André Breton a décidé que le mouvement devait adhérer au Parti communiste, quand la révolution artistique et la révolution politique, on a voulu faire fusionner les deux parce que d'un seul coup ces gens se sont dit quand même si on fait pas la révolution politique en gros ça servira à rien ce qu'on fait, donc on doit aussi prendre en considération la question marxiste. À ce moment-là, c'est devenu comme une cellule un peu du Parti communiste, comme une cellule de Moscou, dépendant de Moscou, et donc là on a commencé à vraiment donner des blâmes, exclure, pousser à la démission des membres du mouvement. Parce qu'un tel écrivait des romans, ce qui était une honte. Un tel travaillait dans la publicité, ce qui était vraiment, vraiment, vraiment scandaleux. Tel autre était journaliste pour gagner sa vie. Bon, donc après, il y avait des choses qu'on n'avait plus le droit de faire, sous peine d'être excommunié. Donc, c'est un mouvement qui très vite est mis en péril, en réalité. Et en plus, André Masson, ça l'explique très bien dans des entretiens qu'il avait donnés à Charbonnier, que c'est en fait un agrégat d'anarchistes et de personnalités totalement, vraiment très fortes et très radicales. Donc c'était déjà un miracle, de toute façon, en fait, de les réunir d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment, ces gens-là ne risquaient pas d'être de braves petits soldats, et donc ils passaient leur temps à contester, à se disputer, à rompre, à se réconcilier. Bon, après, il y avait des antagonismes absolus, par exemple Bataille et Breton, ils n'ont jamais pu se sentir. Et Bataille est tout de suite apparu comme une figure de dissidence. Et d'ailleurs, quand il est apparu dans la bande des surréalistes, certains, Michel Léris, André Masson et d'autres, ont décidé de le suivre lui et ont rompu avec Breton, en tout cas pendant un certain nombre d'années.
Alors parlons de Georges Bataille, de leur rencontre. Vous écrivez que ça s'est déroulé de manière tout à fait inédite, une sorte de conciliabule impliquant la famille Maclès d'un côté, la communauté de ceux qui entourent Bataille de l'autre. Sylvia doit impérativement partir de chez les Frankel et Bataille, lui, s'assagir, sortir de cette spirale de débauche, sous peine d'y laisser sa peau. Sylvia, si vivifiante, pourrait le détourner du libertinage mortifère dans lequel il s'est enfermé.
Et oui, malheureusement, ça n'a pas marché. Il y avait une bonne intention au départ, mais évidemment, les gens ne se changent pas si facilement, donc ça n'a pas marché. Alors, c'est vrai que Sylvia Elle arrive à un moment de sa vie, elle a 19 ans, et en fait, elle habite donc chez Théodore Frankl et sa sœur Bianca. Et apparemment, c'est un peu compliqué. Théodore Frankl a une liaison avec elle, alors que c'est sa belle-sœur, qu'elle est quand même beaucoup plus jeune, ils sont censés avec Bianca l'avoir prise sous leur aile. Donc, on imagine la mère, Maclès, apprenant ça et donc devenant folle en disant, mais c'est pas possible, mes enfants, ils font n'importe quoi, ils vivent vraiment dans un monde totalement voilà, dépourvu. Alors là, pour le coup, de toute forme de moralité. Donc Sylvia, c'est vrai qu'il est assez urgent qu'elle puisse se caser, entre guillemets. Et Bataille, donc lui, il est déjà donc dans cette période de sa vie où il va expérimenter tous les excès possibles et imaginables en matière sexuelle et d'alcool, de débauche, de jeu, de tout ce qu'on peut imaginer, et d'orgie. Tout ce qu'il raconte dans ses livres, Bataille, il l'a expérimenté. Hein. C'était pas purement théorique, hein. Évidemment, c'était très très très. Il y avait les travaux pratiques avant l'écriture. Donc il passait ses nuits dans les bordels, faut bien le dire, et il dépensait absolument tout son argent, sa santé on n'imagine même pas, donc il rentrait à 6h du mat, complètement beurré, désargenté, ayant passé la nuit dans le lit de différentes prostituées, bon donc, et c'était toutes les nuits comme ça. Et il avait une espèce d'avidité avec ça qui faisait que ses copains quand même se sont dit, mais enfin, il va pas tenir quoi, ça va pas durer longtemps tout ça. Ils ont pensé que ça lui ferait du bien, effectivement, d'avoir une femme jeune, drôle, parce que Sylvia Bataille, elle avait cette espèce de tempérament comme ça. Elle était très franche, très directe, très drôle, tournait tout en dérision, disait ses quatre vérités à tout le monde. Bon, donc c'était vraiment pas quelqu'un qui, a priori, allait se laisser faire par lui, et tout ça, qui, au contraire, allait pouvoir un peu bousculer cet homme dans les habitudes déviantes qu'il avait prises. Mais en fait, ça ne marchera pas puisque Bataille va continuer absolument cette vie dissolue. Et en plus, il va de toute façon la quitter très peu de temps après, c'est-à-dire en gros 4 ans après, enfin 6 ans après exactement. Ils se sont mariés en 28, Laurence, leur fille, née en 30. Et il part avec la célèbre Colette Peignot, Laure, en 34. Et donc là, alors là, avec Laure, ils vont s'en donner à cœur joie, à tel point que Laure en mourra. Alors évidemment, elle ne meurt pas vraiment de ça. Elle est tuberculeuse depuis l'adolescence, mais enfin, certainement quand même que ce mode de vie a réactivé la maladie qui était restée en elle et que bon, elle est quand même aussi morte d'épuisement, je pense. Donc ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'au départ, ça, je trouvais que c'était intéressant de raconter ça. Ça montre bien justement comment ces gens vivaient ensemble. Puisque pour l'avenir d'un mec, d'un couple comme ça, les copains, la famille, on se met ensemble et on dit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait quoi? Bah tiens, ça se serait bien. Ok, alors on leur propose quoi. C'est-à-dire que c'est un collectif, hein, on fonctionne tous ensemble, c'est pas vraiment des choses qui se vivent en aparté. Donc je trouvais que c'était amusant parce que ça n'existe plus ça. Donc je trouvais que c'était amusant de montrer comment ces gens-là fonctionnaient.
C'est une belle étude de mœurs aussi que vous avez écrite. Vous n'y allez pas de main morte avec Georges Bataille, par exemple. Enfin, j'ai eu l'impression que vous preniez vraiment le parti de Sylvia contre Georges et que peut-être par un élan féministe,
Justement.
vous impliquiez contre lui, alors, non pas contre son œuvre, mais contre lui en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que mari, en tant que père aussi.
Oui, alors c'est vrai que donc moi je n'ai pas la prétention de croire que je vais pouvoir faire de l'analyse littéraire, donc c'est vrai que j'ai pas envie de dire que Bataille est un écrivain surfait ou un penseur fumeux, ou bon voilà, c'est pas mon enjeu, je suis pas là pour ça, peut-être que je le pense au fond de moi, mais je le garde pour moi, ça j'en ferai pas un livre. C'est vrai que ce qui m'intéresse c'est plutôt la vie privée, le côté un peu voici de tout ça. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me parle, ça que je trouve intéressant, je trouve que c'est ça qui est éclairant, je trouve qu'on comprend, moi j'ai l'impression de mieux comprendre les œuvres des gens que j'admire quand je connais leur vie, hein. J'aime beaucoup ça, justement les bios et tout, je trouve que c'est toujours un éclairage extrêmement précis, instructif. On comprend mieux ce que les gens fabriquent, je crois quand même, dans leur œuvre, si on sait un petit peu comment ils vivaient. Donc, moi, c'était cet aspect-là des choses qui m'intéressaient. Alors, c'est vrai que du coup, Bataille, il s'est pas très bien conduit avec Sylvia, faut bien le dire, et surtout avec sa fille Laurence. Et moi-même, c'est un peu ce que j'explique dans le livre rapidement, mais j'en ai parlé dans d'autres livres, d'ailleurs, je pense qu'il en a un petit peu marre qu'à chaque fois je remette une couche là-dessus, mais moi-même, mon père s'est pas vraiment bien occupé de moi. Donc, dans ce travail d'écriture, où petit à petit, je rentrais dans le personnage, où je me l'appropriais de plus en plus, où plus j'avançais, plus j'avais l'impression de la voir évoluer devant mes yeux, mais évidemment, ce que je voyais, comme je disais, c'était peut-être plus moi finalement qu'elle, enfin, ou une chose en tout cas à la frontière entre les deux. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, comment il a traité Laurence, ça m'a fait penser un petit peu à comment mon propre père s'était comporté avec moi. Et donc, du coup, j'ai pris un petit peu le parti de Sylvia et de Laurence contre cet homme qui les a abandonnés. Après, évidemment, il ne s'agit pas de pallier Georges Bataille parce qu'il a abandonné sa femme et son enfant. Hein. Moi, je ne mets pas... C'est-à-dire qu'à la fois, je mélange au sens où je considère que la vie éclaire l'œuvre. Autant, évidemment, je ne veux pas faire comme Breton, je ne vais pas m'intéresser à une œuvre parce que la vie de son auteur me déplaît. Je pense qu'au contraire, il faut accepter l'artiste avec ses mauvais côtés, ses parts d'ombre, ses côtés vraiment avec des choses des fois beaucoup plus graves que ça. Hein. Moi, un auteur collabo, je peux le lire. Hein, parce que si son œuvre, un mec comme Céline, moi, je ne suis pas d'accord pour séparer en disant bon, les écrits antisémites, c'est une chose, mais Voyage au bout de la nuit, c'est autre chose. Non, les deux sont liés, les deux viennent du même homme. Son cerveau, il brasse la même matière. Mais ce qu'il faut, c'est juste raconter ça, raconter les contradictions, les parts d'ombre, les choses un peu limites, parce que c'est ça qui est intéressant. Si c'est pour faire une hagiographie avec un portrait sublimé de l'artiste comme un grand homme, bon, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouverais pas, j'aurais pas 300 pages à écrire là-dessus. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu un parti pris pour Sylvia, qui, vous avez raison, est un peu un truc un peu féministe. C'est vrai que je considère que les femmes, on a intérêt quand même à serrer les coudes, et j'aime bien prendre parti pour les femmes, c'est vrai.
Et alors après cette période batalienne pour Sylvia, arrive Lacan, leur rencontre, alors leur rencontre se fait quand même un peu sous l'égide de Bataille, toujours, parce que vous expliquez très bien que Lacan a tente de séduire les Bataliens pour les rallier à lui, et que Sylvia va presque devenir un enjeu, Sylvia en tombe amoureux, mais là encore, il paraît pas, vous n'en faites pas non plus le mari idéal, Lacan, loin de là, et vous montrez bien à quel point peut-être il a non pas brisé sa carrière d'actrice, à quel point il a vraiment voulu la freiner dans sa carrière et que...
Oui. Mais disons que Lacan, c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il l'a sauvée. C'est-à-dire que je pense que quand elle le rencontre fin 38, en novembre 38, la guerre est pour bientôt, elle est juive, elle est actrice, sa carrière n'est pas vraiment au beau fixe parce que le chef-d'œuvre de Renoir, La partie de campagne, dans lequel elle a le premier rôle, ne sort pas, ne sortira que... en 46, donc quand même longtemps après. Et donc je pense qu'elle est à un moment où elle est un peu seule, un peu en crise, son amant l'a quittée, et elle tombe sur Lacan, qu'elle avait rencontré déjà plusieurs fois, mais qui ne lui avait pas du tout plu. Et là, elle a une espèce de flash, elle se rend compte qu'en fait, il est vachement bien ce mec, et que contrairement aux a priori qu'elle avait contre lui, d'un espèce de bourgeois du 16e, un bon médecin et tout ça, en fait, c'est quand même quelqu'un beaucoup plus génial, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus original que ça. Donc je pense qu'elle le voit d'un seul coup, parce qu'avant, elle était un peu, elle le regardait de loin avec ses préjugés, et d'un seul coup, elle le voit comme il est. Et d'un seul coup, elle se rend compte qu'effectivement, c'est un mec quand même absolument fascinant, et il tombe amoureux. Et c'est vrai qu'après, Lacan va assez vite, mais même remarquer dès le départ, puisqu'il est quand même encore marié, qu'il ne quitte pas sa femme, finalement c'est sa femme qui demandera le divorce, que quand même il a une fille avec sa femme qui va naître 8 mois avant la fille qu'il a avec Sylvia, donc on comprend quand même très bien qu'il est avec les deux. Ensuite, il va la tromper tout le temps, et en fait, après que le livre est fini, dans ce que je raconte, il va carrément avoir une autre vie, hein, en fait. Hein. Il va jamais vouloir divorcer de Sylvia, mais il va avoir des maîtresses qui seront complètement officielles, avec qui il vivra, pratiquement. Hein. Et en fait, il y a chez Sylvia un destin tragique sur le plan amoureux. C'est une femme, en tout cas, c'est comme ça qu'elle, elle le vivait. Parce que ça, je l'ai retrouvé dans une lettre adressée à sa sœur Simone. Vraiment, elle le dit. Elle dit quand même, on n'aura pas eu de chance. Elle dit, et toi et moi, on n'aura pas eu de chance. Donc, c'est parce que Jean-Pierre trompait aussi beaucoup Simone. C'était quand même des mecs très coureurs, tout ça. Et donc, en gros, toi et moi, on n'aura vraiment pas eu de chance avec les hommes. Et elle dit, voilà, j'espère qu'au moins le travail, ça marchera, que j'ai au moins ça. Et donc, vraiment, et ça doit être une lettre à peu près, justement, de 37, début 38. Donc on voit très bien que quand même elle trouve que bah, les hommes l'ont pas très bien traité, c'est quand même vrai, que ce soit son beau-frère Théodore Frankel, que ce soit Georges Bataille, même si elle leur doit beaucoup. Ces hommes-là lui ont permis de devenir ce qu'elle est devenue, lui ont permis de rentrer dans ce milieu artistique dont elle a été une sorte d'égérie. Mais sur le plan sentimental, en tout cas, ils ne l'ont pas très bien traitée et elle a été très malheureuse. Donc moi je trouvais que c'était assez beau de donner cette dimension-là parce que j'ai essayé de faire justement ça aussi un roman, d'en faire un personnage émouvant. Donc pas une espèce de gloire comme ça, mais plutôt quelqu'un avec justement ses failles, ses échecs, ses empêchements. Et donc, parce que c'est ça que je trouvais moi très émouvant, donc j'ai pas mal mis l'éclairage là-dessus. Alors Lacan, c'était pas pour le charger là non plus, hein. C'est pas pour dire quel salaud ce Lacan, bon. Mais c'est vrai que au départ, c'était un peu un sauveur et que assez vite quand même, je considère qu'il lui a offert un enterrement de première classe. Et si mon livre s'arrête quand ils se marient, sachant qu'ils ont été ensemble longtemps avant, 10 ans avant, donc c'est pas comme si je m'arrêtais au tout début de leur rencontre avec Lacan. Je parle de Lacan. Mais en gros, je considère que le mariage, c'est l'officialisation de cet état de fait, et que en gros, il l'a mise sous une cloche. Hein, et qu'après, sa vie, bah, d'abord, bon, bah, tout le monde meurt un peu les uns après les autres, elle n'est plus comédienne, et en gros, elle est devenue Madame Lacan, et donc elle organise des dîners rue de Lille, et elle va lui chercher un cadeau pour sa fille quand il a besoin qu'elle aille lui chercher un cadeau, puis elle fait autre chose, mais elle n'a plus vraiment de vie. Et donc la grande vie de Sylvia Bataille, pour moi, elle est avant. Mais heureusement, comme ils se sont mariés un peu tard, quand même, il y a une partie de cette grande vie où ils sont ensemble. Sinon, ça aurait été un peu triste quand même. Mais c'est vrai que ma fin, c'est ça le parti pris, quoi. C'est de dire, bah, en fait, la vie de cette femme, pour moi, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Alors, il y en a qui trouvent que c'est vraiment absurde, quoi, de faire arrêter 40 ans avant sa mort. Mais bon, moi, je trouvais que ces 40 années qui passaient n'étaient pas très intéressantes et que c'était plutôt après les enfants qui prenaient la relève et qu'il aurait fallu après raconter notamment Laurence Bataille, qui est un très très beau personnage. Donc, ça finit sur elle, en fait. Ça finit sur Laurence parce que justement, c'est un peu l'idée. Qu'à un moment donné, bah, c'est vos enfants qui prennent le relais et c'est leur vie après qui se joue. Hein, et vous, la vôtre, ça y est, pour Sylvia, je pense qu'à 48 ans, c'est un peu plié quand même.